Chapitre 13. L'annonce faite par le Seigneur que le temple devait être complètement détruit introduit ses discours prophétiques. Les disciples ne mettent pas en doute l'accomplissement de ces paroles. Ils veulent simplement connaître le temps où elles auront leur accomplissement et, en bons juifs qu'ils étaient, quel en serait le signe. Sa réponse à leur question est très instructive. En premier lieu, il ne fixe aucune date. Toutes les réponses qui concernent le temps, il les donne de manière indirecte. En deuxième lieu, il déborde les perspectives immédiates de leurs questions pour aboutir à l'horizon plus vaste des derniers jours et de son propre avènement en gloire. On trouve cette façon de faire dans beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament qui ont été données pour un événement historique proche, qui ont eu effectivement une application directe à cet événement, et qui, cependant, ont été aussi formulées pour s'appliquer, avec une portée plus étendue encore, à des événements qui doivent arriver au dernier jour. Pour le cas qui nous concerne maintenant, il y a eu un accomplissement dans la destruction du temple par les Romains en l'an 70 de notre ère. Cela ressort plus nettement dans le compte-rendu de ce discours que nous fait Luc. Et cependant, l'accomplissement proprement dit de cette prophétie est lié à la venue du Seigneur. C'est à cette particularité de la prophétie qu'il est fait allusion dans ce que dit Pierre dans sa seconde épître, chapitre 1, verset 20, « Aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. » En troisième lieu, il fait peser l'importance de la prophétie présentée sur la conscience et le cœur de ses auditeurs. Si leur question est dictée en grande partie par la curiosité, le Seigneur élève tout le sujet à un niveau bien supérieur par ces mots d'introduction « Prenez garde que personne ne vous séduise ». Le cours des choses que révèle la prophétie va à l'opposé de toute l'attente naturelle des hommes. Ce qui attire chez de faux prophètes, c'est qu'ils prédisent toujours des choses qui répondent aux désirs des hommes et qui paraissent tout à fait raisonnables. Il nous faut être sur nos gardes, car les faux prophètes ne manquent pas aujourd'hui dans les chairs de la chrétienté. Le premier avertissement, au verset 6, concerne ceux qui viennent, se faisant passer pour le Christ. C'est là que se trouve toujours le centre du conflit. Le diable sait que s'il peut tromper les hommes en ce qui concerne le Christ, il peut les tromper sur tout le reste. Si nous nous trompons sur ce qui est le centre, nous nous trompons forcément sur tout ce qui est autour. Être enraciné dans notre connaissance du vrai Christ nous met à l'abri des séductions de ceux qui sont de faux Christ. Ensuite, nous sommes avertis qu'il ne faut pas attendre des temps faciles quant à l'état du monde. On doit s'attendre à des guerres, des troubles parmi les nations et à des perturbations dans l'univers. Il ne faut pas interpréter ces choses comme indiquant la grande conflagration finale, car il ne s'agit que de commencements de douleur. De plus, il faut que les disciples s'attendent à être confrontés à des difficultés particulières. Ils seront en butte à l'opposition et à la persécution. Ceux qui leur sont le plus proches se tourneront contre eux, et la haine des hommes doit être le plus souvent leur part. Mais en revanche, comme le Seigneur le montre, ces circonstances adverses deviendront des occasions de rendre témoignage, et ils auront un soutien particulier, une sagesse particulière, donnée par l'Esprit-Saint pour ce qu'ils auront à dire. Certains ont déduit du verset 10, en le rapprochant de Matthieu 24, verset 14, que le Seigneur ne peut pas venir chercher ses saints tant que l'Évangile n'a pas été apporté à toutes les nations d'aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que les disciples à qui s'adressait le Seigneur étaient, à ce moment-là, le résidu pieux d'Israël et qu'ils n'avaient pas encore été baptisés en un seul corps, l'Église. Il ne faut pas oublier non plus que l'Évangile, dans ce verset, est un terme général qui se rapporte non seulement au message prêché aujourd'hui, mais aussi à cet évangile du royaume dont parle Matthieu et qui sera annoncé par le résidu pieux qui sera suscité après l'enlèvement de l'Église. C'est le verset 14 qui nous donne le signe que demandaient les disciples. Daniel parle de l'abomination qui désole, au chapitre 12, verset 11, et c'est à quoi il est fait allusion dans notre verset, car ce mot « désolation », nous dit-on, est un mot à sens actif, ayant le sens de « qui cause la désolation ». il doit y avoir l'installation publique d'une idole dans le sanctuaire de Jérusalem, comme cela est annoncé en Apocalypse 13, versets 14 et 15, insulte à Dieu des plus grossières. Ce signe indiquera deux choses. D'abord que le temps de détresse particulier dont parle Daniel 12, verset 1 a commencé. Ensuite, que la fin du temps présent et l'intervention de Christ dans sa gloire sont très proches. Le reste du discours du Seigneur traite de ces deux choses. Les versets 15 à 23 traitent de la première, les versets 24 à 27 traitent de la seconde. La façon dont s'exprime le Seigneur au verset 19 montre qu'il parle de la grande tribulation, et les versets qui précèdent montrent qu'elle aura son centre et sa plus grande intensité en Judée. Les versets 15 et 16 semblent indiquer qu'elle commencera très soudainement. Une fuite instantanée sera le seul moyen d'échapper pour ceux qui craignent Dieu. La violence de cette tribulation sera telle que s'il était permis qu'elle se prolonge, cela signifierait l'extermination. À cause des élus, cette détresse ne pourra pas se prolonger, mais elle sera brusquement interrompue par l'avènement de Christ. En lisant Daniel 9, verset 27, nous comprenons que cette tribulation commencera au moment où le chef de l'Empire romain rétabli fera cesser le sacrifice et l'offrande au milieu des sept dernières années. Et ainsi, il ne restera que 3 ans et demi jusqu'à ce que le Seigneur y mette fin par sa glorieuse apparition. Par cette tribulation, le diable cherchera à écraser et à exterminer les élus. Mais ce n'est pas tout, comme le montrent les versets 21 et 22. Il y aura à ce moment-là un nombre exceptionnel de faux Christ et de faux prophètes qui apparaîtront et par lesquels il cherchera à séduire les élus. Il le ferait si c'était possible. Grâce à Dieu, ce n'est pas possible. Les vrais saints sauront que le Christ véritable ne va pas se cacher dans quelque lieu secret, de sorte que les hommes doivent dire « Voici le Christ est ici, voici il est là ». À sa venue, il apparaîtra resplendissant dans sa gloire, et tout œil le verra. Cette tribulation se terminera dans d'ultimes convulsions qui affecteront même les cieux, comme le montrent les versets 24 et 25. Le soleil, la lune et les étoiles sont quelquefois utilisés dans les Écritures comme symboles respectivement du pouvoir suprême, du pouvoir conféré et des puissances subordonnées. Et il est question ici des puissances qui sont dans les cieux, comme le montre la fin du verset 25. Pourtant, le discours du Seigneur n'est pas marqué par un grand emploi de symboles, comme l'est l'Apocalypse. Aussi pensons-nous qu'il ne faut pas exclure qu'il y aura littéralement des convulsions qui affecteront les corps célestes, d'autant plus que nous savons que le soleil a été vraiment obscurci quand Jésus est mort. L'obscurcissement de ce jour-là servira à faire mieux ressortir l'éclat de son apparition quand il viendra sur les nuées avec grande puissance et gloire. La glorieuse apparition du Fils de l'homme sera suivie par le rassemblement de ses élus. Ceux-ci ont été mentionnés au verset 20. Il s'agit de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Et c'est par l'apparition de Christ qu'ils doivent être sauvés. Ces élus sont le résidu pieux d'Israël des derniers jours, car le Seigneur s'adressait à ses disciples, qui étaient alors le résidu pieux au milieu d'Israël, et c'est dans ce sens-là, sans aucun doute, qu'ils auront compris ses paroles. Ces élus se trouveront dans toutes les parties de la terre, et les instruments qui serviront à les rassembler seront des anges. Une fois rassemblés, ils deviendront l'Israël racheté, qui entrera dans le règne de 1000 ans. Tout cela doit être distingué de la venue du Seigneur pour ses saints, comme cela est annoncé en 1 Thessaloniciens 4, où le Seigneur lui-même descendra du ciel et nous rassemblera vers lui. L'allusion au figuier au verset 28 est une parabole. Nous devons donc nous attendre à y trouver un sens plus profond que celui qui se rattache à une comparaison ou à une illustration. Sans aucun doute, le figuier représente Israël, comme nous l'avons vu en lisant le chapitre 11, et donc le bourgeonnement de ses branches indique le commencement du réveil national de ce peuple. L'été représente l'ère de la bénédiction millénaire pour la terre. Quand une vraie renaissance nationale commencera pour Israël, alors l'apparition du Christ et le millénium seront très proches. Le mot « génération », au verset 30, est évidemment employé dans un sens moral, et non pas littéral. Il représente des personnes de même type et de même caractère, comme le Seigneur l'emploie au verset 19 du chapitre 9 et en Luc 11, verset 29. La génération incrédule ne passera pas avant la deuxième venue de Christ, ni même la génération de ceux qui cherchent le Seigneur. La venue du Seigneur signifiera la disparition de la génération méchante et en même temps le plein accomplissement de toutes ses paroles, qui sont plus fermes et plus durables que toutes les choses créées. Le verset 32 a présenté beaucoup de difficultés à plus d'un à cause de l'expression « ni même le Fils ». Il ne nous est sans doute pas possible de l'expliquer entièrement, mais nous pouvons au moins dire deux choses. D'abord, dans cet évangile, le Seigneur est présenté comme le grand prophète de Dieu, et il s'agit d'une affaire réservée par le Père et qu'il ne lui est pas donné de révéler en tant que prophète. Ensuite, si nous lisons Matthieu 20, verset 23 et Jean 5, verset 30, en les comparant à notre verset, nous verrons que les trois passages sont parallèles, mais sur trois plans différents, respectivement « donner »,« savoir » et « faire ». En Matthieu, nous avons « ce n'est pas à moi pour le donner ». Nous pourrions résumer Marc par « ce n'est pas à moi de savoir » et Jean « ce n'est pas à moi de faire ». L'incrédulité s'est beaucoup servie de ce qui est dit en Philippiens 2, verset 7 « il s'est anéanti lui-même » ou plus littéralement « il s'est vidé lui-même », construisant là-dessus cette théorie qu'il s'est dépouillé lui-même de connaissances pour devenir un juif avec les idées de son temps. Et ainsi, croit-il, on peut lui imputer des erreurs sur beaucoup de points. Il s'est bien vidé de lui-même, car les Écritures disent qu'il l'a fait. Les trois passages que nous avons cités nous donnent l'idée exacte de ce qui était impliqué en cela et nous amènent à bénir son nom pour son abaissement plein de grâce. La théorie de l'incrédulité voudrait le dépouiller, lui, de sa gloire, et nous, de tout respect pour ses paroles, paroles qui, il vient de nous le dire, ne passeront jamais. Les cinq versets qui terminent ce chapitre contiennent un appel très solennel qui devrait nous atteindre tous. Au verset 33, nous avons pour la quatrième fois ces mots « Prenez garde ». C'est avec ces mots que le Seigneur a commencé son discours. C'est avec eux qu'il le termine. Pendant le discours même, il les a prononcés deux fois, versets 9 et 23. Les révélations prophétiques qu'il a données sont toutes faites pour attirer l'attention de notre conscience et influencer notre vie. Il nous prévient pour que nous soyons prémunis. Connaissant l'infaillibilité de ses paroles, mais ne connaissant pas quand sera le temps, ce que nous avons à faire, c'est de veiller, c'est-à-dire de ne pas dormir du tout et d'être très attentif, et il nous convient aussi de prier, car nous sommes une proie facile pour les puissances des ténèbres, et ainsi il nous faut absolument rester dépendants de Dieu. Nous sommes laissés sur la terre pour faire le travail qui nous a été assigné dans un esprit d'attente, ayant devant nous la venue du Fils de l'homme. La triple répétition du mot « veiller » dans ces cinq versets est très frappante. Il faut que nous y apportions une attention toute particulière dans notre esprit, d'autant plus que notre part est de nous trouver au dernier jour de cette dispensation où sa venue ne peut pas être très lointaine. C'est très facile de succomber aux séductions de ce monde quand notre esprit s'assoupit et n'est plus sur ses gardes. C'est une expression de la plus haute importance que cette expression « veiller ». Et le dernier verset de notre chapitre montre que certainement elle nous concerne.